Bonjour, on a une interro surprise. Alors, une interro surprise sur la vie virtuelle. Le concept est un peu particulier. Normalement, c'est vous qui posez des questions à Agnès. Agnès Marot, qui a de multiples casquettes, hein, directrice de collection, éditrice, mais aussi auteur. Et elle a notamment commis un excellent livre qui s'appelle IRL sur les réalités virtuelles, qu'elle va peut-être nous présenter. Puis après, je vous passe le micro à vous.
Oui, tout à fait. Donc, IRL, le concept est assez simple. En gros, c'est comment vous réagiriez si vous découvrez que vous êtes un personnage de jeu vidéo. Et alors, c'est un thème qui a été utilisé un certain nombre de fois, mais beaucoup sur la violence. On met souvent des humains dans un jeu vidéo très violent et ils doivent survivre. Moi, c'était pas ce qui m'intéressait. J'ai plutôt utilisé les jeux de simulation, donc notamment la grosse influence des Sims ou de Second Life, ce genre de choses. Donc ça va plutôt être vraiment dans la vie quotidienne. Si on se rend compte tout d'un coup que quand on a décidé d'aller manger parce qu'on avait faim, en fait, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est quelqu'un qui nous a donné envie de le faire. Si on a décidé de tomber amoureux de quelqu'un, ça vient peut-être pas de nous. Peut-être bien qu'on a aussi décidé des choses qui est par nous-mêmes, mais en fait on sait pas les distinguer des autres. Donc c'est vraiment, s'intéresser à ce côté manipulation, un côté très voyeuriste aussi qu'il y a dans ces jeux, aller regarder prendre leur douche, aller regarder tout simplement faire leur repas, aller à leur soirée, etc. Et donc c'est ça qui m'intéressait, de travailler dans ce thème-là. Et puis mon personnage à moi prend conscience de ce qui lui arrive et donc évidemment veut en sortir. Et donc je me suis amusée après à mélanger les frontières de la vie réelle et de la vie virtuelle, parce que pour moi c'est pas forcément deux choses complètement séparées, puisque c'est quand même quelqu'un de réel qui joue dans le virtuel. Donc c'est tous ces thèmes-là que j'ai utilisés dans IRL.
Est-ce que c'est un peu aussi la prise de conscience peut-être de ce personnage, de sa propre existence ?
Oui, tout à fait. En fait, au départ, elle se pense humaine comme tout le monde. Puis quelqu'un lui ouvre les yeux, elle ne sait pas qui à l'origine, en lui disant, sans lui déballer tout d'un coup, parce que sinon ça fait un peu un choc quand même, mais en lui faisant comprendre que finalement elle n'est qu'un personnage virtuel. Et elle, pour elle, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle a passé toute sa vie en tant qu'humaine, elle a des émotions, elle ressent des choses. Et pour elle, elle n'est pas juste une IA, elle est une humaine, en fait. Et donc ça va être la prise de conscience de cette existence, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que je suis ? Qui je suis ? Est-ce que ma mère est ma mère ? Parce que finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé pour moi. Toutes ces choses-là. Et cette prise de conscience-là va aussi entraîner d'autres prises de conscience, notamment dans la vie réelle, par exemple, par rapport à son joueur, celui qui l'a créé, elle, qui va prendre conscience que son personnage, finalement, c'est peut-être plus qu'un personnage de jeu vidéo, que peut-être qu'elle peut avoir une vie propre et que peut-être qu'il n'a pas le droit de la manipuler. Et en même temps, il a passé toute sa vie à le faire, donc c'est pas si simple de s'arrêter du jour au lendemain. Donc ouais, toutes ces prises de conscience qui vont grossir petit à petit et qui questionnent finalement ce que c'est que l'humain, en fait, tout simplement.
Alors, je vous le disais, c'est normalement à vous de poser des questions. Est-ce que quelqu'un a une question sur la vie virtuelle, les réalités virtuelles ou sur le travail d'Agnès ?
Je ne mords pas, promis.
Bon, moi, j'en ai plein. Hein, donc, vous m'interrompez, puis quand vous avez des questions, vous me dites. Et ce travail-là d'auteur, il est un petit peu particulier, puisque du coup, tu es auteur, c'est toi aussi qui crée les personnages. Est-ce que c'est aussi une mise en abîme de ton boulot ?
Bien sûr, ouais, et bien sûr. Je me suis beaucoup nourrie de films que j'ai vus dans lesquels les personnages des auteurs prennent conscience qu'ils sont des personnages ou bien rencontrent leur auteur. Il y avait notamment Elle s'appelle Ruby, qui est. Alors que j'ai pas forcément aimé le film, mais j'aimais beaucoup le concept, où en fait c'est un écrivain qui écrit une histoire en gros sur la femme de ses rêves. La femme de ses rêves débarque dans sa vie, donc il tombe amoureux d'elle, et là il se rend compte que s'il continue d'écrire l'histoire, il peut influencer ce que fait la femme de ses rêves. Donc il a un contrôle total sur elle, et elle, ça la rend folle petit à petit. Donc après, voilà, j'ai beaucoup aimé le concept et un peu moins le traitement, parce que je trouve qu'on parle beaucoup du côté malsain qui est intéressant, mais un peu moins du côté jeu, qui me plaisait moins plus. Il y a aussi, alors le nom m'échappe depuis deux jours là, mais la vie rêvée, la vie de Daryl Creek ou je ne sais plus, qui est là. En fait, on commence. La scène est très simple. On a un homme qui se brosse les dents devant son miroir, et il y a une voix off derrière qui dit Harold était en train de se brosser les dents. Et là, le personnage se met à entendre la voix off. Et il se rend compte petit à petit qu'il est un personnage de roman et qu'il entend toute la voix off de son auteur qui est en train d'écrire. Et l'auteur va, il va y avoir donc une rencontre entre l'auteur et son personnage. Et sauf que l'auteur avait prévu de le tuer. Je ne spoil pas parce qu'on le sait très vite, hein, je précise quand même. Il avait prévu de le tuer. Et donc il y a tout ce concept-là. Est-ce que je vais encore pouvoir le tuer maintenant que je sais qu'il existe ? Le personnage, en même temps, qu'est-ce que c'est que ma vie ? Est-ce que c'est moi qui l'ai décidé ? Qu'est-ce que je suis ? Donc c'est beaucoup de ces univers-là qui ont évidemment nourri ma réflexion là-dessus, sur l'acte de création, le rapport qu'on a avec nos personnages, le fait que quand on écrit, on est souvent surpris par ce que peuvent faire, dire ou penser nos personnages au moment où on l'écrit, ce qui me paraît fou quand j'y réfléchis, parce que c'est moi qui mets les mots quand même sur sur la page, mais quand j'écris une scène, elle peut prendre un tour que j'ai pas du tout imaginé, j'avais pas du tout prévu ça. Il m'est arrivé notamment dans IRL, une scène qui a été coupée depuis, mais j'avais prévu que le duo de personnages allait s'embrasser à la fin de la scène. Ils ont fini en s'engueulant et en arrêtant de se parler pendant des scènes après. Et ce rapport-là est très, très intriguant, moi, je trouve. Je comprends pas exactement comment il fonctionne, donc forcément j'y réfléchis et ça nourrit mes réflexions quand je crée mes personnages, et notamment savoir s'ils prennent vie réellement ou s'ils restent quand même des personnages qu'on peut manipuler selon notre bon vouloir.
Est-ce qu'il y a un lien, ça m'a fait penser moi à un film avec Jim Carrey dont j'ai mangé le nom, où il est en fait le héros malgré lui d'une télé-réalité.
Truman Show,
merci. Est-ce que ça a un lien aussi avec ce côté voyeurisme?
Oui, beaucoup. D'ailleurs, le film est cité dans mon livre, puisque je m'en suis aussi fortement inspirée. Truman Show, c'est donc voilà, l'histoire d'un homme qui vit une vie dans laquelle il est très heureux. Et puis, il se rend compte petit à petit qu'en fait, tout son univers est faux. Tous les gens avec qui il vit sont des acteurs, y compris sa femme, dont il est très amoureux. Et que toute sa vie est retranscrite sur des écrans. Concept qui m'a toujours beaucoup marqué, j'ai beaucoup repensé à ce film et je me suis dit qu'aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, avec les jeux vidéo, on pouvait aller beaucoup plus loin que ça, puisque dans l'univers de Truman Show qui a été recréé physiquement, il y a une porte finalement, il peut sortir. Il le sait pas, mais ça existe. Or, dans le jeu virtuel, ce n'est pas possible. Il faut créer autre chose pour pouvoir en sortir. Et donc, c'est vraiment. En fait, je suis partie du Truman Show comme idée de base. J'ai beaucoup réfléchi à ce concept d'observation, de voyeurisme, de manipulation aussi, parce que les personnages, les acteurs l'incitent à faire telle ou telle chose dans la vie. Et je me suis rendu compte que c'était les mêmes mécanismes que dans les jeux de simulation, vraiment ce côté observer le quotidien de quelqu'un d'autre, influer dessus, parce que dans le Truman Show, il n'y a pas le système des votes, mais dans les réalités, dans les téléréalités d'aujourd'hui, il y a ce système-là.
Donc, j'ai une question. Est-ce que en écrivant ce bouquin, tu as fini par développer une forme de paranoïa pour toi ? Tu finissais par regarder tout ce que tu faisais et tu te demandais pourquoi tu le faisais et si les gens qui t'entouraient étaient vraiment.
Alors, un peu, forcément, puisque mon but c'était de la créer chez le lecteur, donc forcément ça revient. Il y a un truc que je fais depuis longtemps, mais que je fais encore plus depuis que j'ai écrit ce livre, c'est de mettre un petit scotch sur toutes les caméras de ma maison. C'est-à-dire sur l'écran de mon MacBook notamment, puisque c'est là que j'écris. Sur mon téléphone, j'essaye aussi. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en moins de 5 minutes, et y compris si l'ordinateur est éteint, quelqu'un peut pirater votre caméra et vous observer sans même qu'il n'y ait aucun signe sur votre caméra. Chose qui, donc évidemment, m'a beaucoup servi pour IRL. Et mon but, c'était vraiment d'une part de faire prendre conscience de ça aux gens, parce que personne ne le sait. Enfin, très peu de gens en tout cas. Et d'autre part, de m'amuser avec ce côté un peu paranoïaque, de la recréer chez le lecteur pour qu'il soit à la place du spectateur, puisqu'il l'est quand il regarde une télé-réalité, quand il joue, etc. Donc voilà, encore une fois, dans mon livre, je mêle la réalité et le virtuel, mais j'essaye aussi de mêler avec la réalité de notre monde en dehors du livre, quoi.
Et est-ce qu'il y a un plaisir de la prise de raconter la prise de conscience du personnage, presque une naissance?
Oui, totalement. En fait, à l'origine, l'histoire de ce livre a été assez compliquée. À l'origine, j'avais écrit une trilogie, en fait, qui racontait la même histoire, mais en beaucoup plus détaillée, on va dire. Et presque les trois quarts du premier tome racontaient la prise de conscience du personnage. où au départ il y avait vraiment un aspect paranoïaque, elle se demandait si elle était folle parce qu'elle est la seule à voir les caméras qu'il y a autour d'elle, à savoir qu'elle est un personnage de jeu vidéo. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié faire. En revanche, je pense que ça fonctionnait pas. Parce que du coup, j'attendais presque un tome avant de montrer l'intérêt réel de ce livre qui est vraiment plutôt le mélange réalité virtuelle, etc. Et du coup, quand j'ai rassemblé 3 tomes maintenant, j'ai complètement sabré cette partie-là. Mais je pense que j'en ai gardé plutôt le fruit des réflexions qui ont du coup duré longtemps, puisque j'avais écrit beaucoup sur la question. En mêlant tout de suite, en fait, dans cette version-là, il y a plusieurs époques qui s'entrecroisent. Et on commence tout de suite par une Chloé qui s'adresse au spectateur, c'est-à-dire en fait au lecteur, puisque c'est un vous, en leur disant, voilà, moi je suis observée, vous m'avez manipulée, et voilà, en revanche, vous avez aussi été manipulée, et voilà l'histoire de ma vraie vie, celle qu'on a coupée au montage, en fait. Et après ça, on embraye sur la partie où elle n'est pas encore tout à fait consciente d'être observée, et elle commence à prendre cette conscience-là. Donc c'est un jeu que j'ai mis longtemps à mûrir, en fait, qui a nécessité... Je pense que j'ai réécrit 3 fois le premier tome, puis une version en un seul tome. Donc beaucoup de réécriture. J'ai beaucoup réfléchi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette prise de conscience, parce que ça ramène à qu'est-ce que je suis, qui je suis, le regard des autres. Je deviens différente, alors qu'elle ne l'était pas à l'origine. Et qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait.
Est-ce que quelqu'un a une question pour Agnès ? Je vais continuer. Toi, tu es toi-même joueuse d'univers comme les Sims. Et quelle est la place dans l'écriture ?
Alors, j'ai joué aux Sims à l'époque du 1, donc ça remonte quand même quand j'étais ado. J'ai joué pas mal à cette époque-là. Après, plus du tout. J'ai rejoué au 4 au moment où j'écrivais IRL pour me remettre d'actualité, parce que notamment j'avais envie d'utiliser quelques bugs qui étaient dans le 1, mais malheureusement pour moi ils ont été réparés entre temps, donc ça fonctionnait plus. Notamment quand on mettait un personnage dans une piscine et qu'on enlevait l'échelle, il nageait jusqu'à mourir. C'est que je trouvais ça très très drôle, et en fait maintenant il peut sortir par le bord de la piscine, donc j'ai pas pu l'utiliser. Donc je suis joueuse de Sims, je l'ai été. En revanche, je joue à d'autres jeux vidéo de tout genre, ça va être de The Witcher 3, Assassin's Creed, à récemment j'ai fini Life is Strange, qui est un jeu vidéo génial, qui est pour le coup très narratif, une histoire avec beaucoup de dialogues, où une jeune fille découvre qu'elle peut revenir 15 minutes dans le temps pour changer l'action qu'elle vient de faire. Donc on peut essayer à peu près 4-5 pistes possibles pour chaque scène qu'on joue, puis après il faut en choisir une et on peut plus la changer. Et évidemment ça a un impact sur la suite. Donc je joue, oui, effectivement, bon, pas non plus, je suis pas une grosse gameuse tous les jours, etc., mais je joue pas mal, et je trouve que de plus en plus, et notamment avec des jeux maintenant comme Life is Strange ou même The Witcher 3, il y a une narration extrêmement complexe, très très développée, des personnages qui sont vraiment plus complexes que ce qu'on avait dans les jeux avant, et du coup le rapport entre littérature et les jeux vidéo me paraît d'autant plus prégnant aujourd'hui. Et c'est des univers qui, à mon avis, se marient très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas le dernier livre que je fais sur le sujet.
et dans ton travail d'auteur, ces jeux vidéo t'apportent quelque chose ?
Pour IRL, je ne sais pas. Alors si, le côté... Si, quand même, pour créer mon personnage de Chloé. Comme c'était une Sims, pour la créer, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une Sims. Sur le jeu, j'ai vu que je pouvais choisir 3-4 traits de caractère en plus des traits physiques. J'ai vu ce que je pouvais, jusqu'à quel point je pouvais la personnaliser. Et en gros, voilà, Chloé est pareil, elle a 3-4 traits de caractère au départ, hein, bien sûr, puisqu'après elle devient humaine, donc elle en développe plus. Mais je me suis inspirée, voilà, de la façon dont on crée le personnage du jeu vidéo pour recréer le personnage de Chloé. Après, pour la narration, pour IRL, ça m'a pas forcément aidé de jouer aux jeux vidéo. En revanche, c'est possible que ça arrive pour la suite, voilà, notamment Life is Strange qui m'a pas mal fait réfléchir, et puis d'autres jeux vidéo que j'ai testés depuis.
Est-ce que c'est le même mouvement en tant qu'auteur de création ? Je parle pas des intentions là, hein, dans le roman, mais en tout cas sur les bases et la construction de l'univers et des personnages.
Je trouve pas forcément parce qu'on est beaucoup plus limité dans le jeu vidéo. En tant qu'auteur, on peut faire tout ce qu'on veut. Dans le jeu vidéo, on a quand même une base de données. Par exemple, dans les Sims, alors moins maintenant, mais au départ, on était quand même obligé de coller à un certain nombre de stéréotypes parce que la base de données était beaucoup moins étendue qu'elle l'est maintenant. Dans les jeux vidéo, il y a par exemple choisir 4 races différentes pour Dragon Age ou les trucs comme World of Warcraft. Donc on a quand même plus de limites. C'est plus de la personnalisation que de la création pour moi.
Et sur le côté machine, programmation informatique, est-ce qu'il y a un jeu sur la conscientisation de la machine ? Sur la prise de conscience de la machine qui du programme informatique devient conscient. Est-ce que tu l'as traité comme ça ou est-ce que tu es resté juste sur le personnage qui devient juste conscient du monde qui l'entoure ?
Y a un peu des deux, mais après je suis loin d'être une spécialiste en programmation, en codage, etc. Même j'y connais rien. J'aimerais bien, cela dit, faudrait que je me renseigne, mais donc je joue, je me renseigne beaucoup sur les nouvelles technologies. J'ai profité d'ailleurs du salon pour aller tester les casques de réalité virtuelle pour ce genre de choses. Après, je n'ai pas les moyens culturels, tout simplement, de réfléchir en termes de prise de conscience d'un programme pour le moment. Donc j'ai plus pensé vraiment pour le moment en termes de personnages et d'humanité. Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi, mais que pour le moment je suis pas capable d'appréhender parce que tout simplement je connais pas assez.
Et sur son caractère, le fait que ce soit un Sims, est-ce que ça t'a posé des limites ou est-ce que tu l'as traité comme un personnage humain ?
Non, au départ ça m'a posé des limites et qu'on me reproche d'ailleurs de temps en temps. On me dit qu'au départ le personnage est stéréotypé. Alors oui, mais j'ai pas le choix en fait. C'est un personnage de jeu vidéo, il est forcément stéréotypé au départ. Moi ce qui m'intéressait c'était justement sa transformation, qu'elle sorte de ces limites-là. Parce qu'effectivement, au départ, c'est un personnage un peu girly, qui rêve du prince charmant et qui est pas trop mauvaise à l'école et qui adore lire. Chose que voilà, on voit souvent dans la littérature jeunesse. Mais en même temps, je ne pouvais pas faire un personnage complexe parce qu'elle c'était pas possible techniquement. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette version en un tome où on voyait tout de suite une image, même courte, mais une image de la Chloé qu'elle allait devenir. Pour qu'on comprenne qu'elle n'allait pas rester comme ça, qu'elle n'allait pas rester ce personnage stéréotypé qu'au début on a vraiment envie de baffer, hein, c'est comme ça. Donc là, oui, ça m'a posé des limites au début parce que, ben, tout simplement, je ne pouvais pas faire quelque chose de plus complexe, c'était pas crédible en termes de jeu, quoi.
Est-ce que...
Oui.
Mais du coup, comme vous avez humanisé un programme, finalement, est-ce que vous avez gardé des objectifs propres à ce que pourraient être les objectifs d'un programme ? Qui sont pas les mêmes enjeux qu'un humain et à quel point la question c'est est-ce que vous avez pas trop humanisé le personnage, comment vous avez fait pour pas trop l'humaniser et rester dans une vision que c'est quand même une machine qui a ses propres enjeux, ses propres valeurs, etc.
Alors j'ai un peu biaisé en fait parce que cette question de la machine qui a de l'intelligence artificielle qui a des enjeux d'intelligence artificielle, etc., elle a été traitée beaucoup de fois et beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire. Du coup, c'était pas ce que j'avais envie d'aborder. Moi, c'était plus le côté, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle des programmes. Et alors, donc, j'ai un peu biaisé parce que j'ai fait en sorte que le créateur de Chloé, en la créant, qu'il ait tout de suite, lui, au moment de la créer, l'envie qu'elle se libère, en fait, de ce qu'elle est. Et donc finalement, j'ai fait en sorte que dans son programme, dans sa création même, il y ait cette possibilité qu'elle puisse échapper à ce qu'elle est et se sentir humaine. Après, j'ai vu beaucoup de films sur le fait des IA qui se libèrent de ce qu'elles sont et qui veulent dominer le monde. J'ai vu un film très très bon où c'est une IA qui se libère de ce qu'elle est et qui veut pas du tout dominer le monde, elle veut juste être heureuse, c'est Her, qui est excellent. Mais ça a déjà été fait avant moi, très bien, donc j'avais plus envie de m'interroger sur autre chose. Qui a été, je pense, un peu moins traité, puis qui m'intéressait plus d'un point de vue auteur, comme on parlait tout à l'heure sur la création des personnages, qui me parle plus. Voilà.
Quelqu'un d'autre ? Poser des questions à Agnès, que ce soit sur ce roman-là ou autre. Moi, j'ai une question sur le corps.
Oui.
Qui dit programme informatique, qui dit personnage informatique, pose la question effectivement du corps. Comment est-ce que tu l'as géré, ça aussi ?
Alors, c'est une question que je me suis longtemps posée parce qu'évidemment, j'avais envie de la faire sortir du jeu pour la faire entrer dans la vie réelle, vu que mon but, c'était vraiment de mêler les deux. J'ai interrogé les ingénieurs et scientifiques de mon entourage pour savoir s'il y avait une possibilité de lui donner un corps. Oui, heureusement pour moi. Avec les impressions 3D, maintenant on peut imprimer des tissus. D'ailleurs, il y a une exposition là-dessus en bas que j'ai été voir hier qui est géniale. On peut imprimer des tissus humains et des os en injectant des cellules humaines et qui font qu'ils vont pouvoir croître. Et donc on peut pas encore à l'heure actuelle créer un corps humain fonctionnel, mais ça sera sans doute le cas un de ces jours. Et donc je me suis vraiment imprimé des imprimantes biologiques en fait en 3D. D'ailleurs, j'ai un petit bout de tibia dans mon sac que j'ai récupéré en bas. Donc voilà, vraiment pour l'aspect technique, simplement ce qui existe en fait, ou qui existera bientôt.
Dans ton travail d'auteur, là on parle de réalité virtuelle, mais est-ce que toutes ces nouvelles technologies t'inspirent, te posent question ?
À fond, ouais, carrément. Moi je trouve ça à la fois génial et terrifiant, tout ce qui arrive, ça va très très vite ces dernières années. La réalité virtuelle qui arrive avec, là il y a eu Pokémon Go cet été qui a changé la donne parce qu'on a commencé, bon ça existait déjà mais ça a vraiment pris de l'ampleur. On a commencé à pouvoir jouer dans la rue, à avoir des personnages qui n'existent pas dans la rue. Ça, je vous cache pas que ce sera probablement le sujet d'un de mes prochains romans. Avec la technologie qui nous permet de faire des choses qui étaient impossibles avant. Jusqu'où on va aller? Où est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on a le droit de faire tout ça? Parce qu'il y a des choses qui, éthiquement, bon, par exemple, là, dans le jeu, il crée une personne à partir d'un programme. Si ça arrivait vraiment, ça ferait peur quand même, surtout avec. D'ailleurs, elle se pose beaucoup la question, surtout avec toute la littérature de science-fiction où on a vu les machines prendre le pas sur l'homme et essayer de le détruire. Là, elle a très peur elle-même quand elle se rend compte qu'elle est une machine et qu'elle entre dans la vraie vie. J'ai mis cette problématique-là où elle-même se dit mince, est-ce que je vais être mauvaise pour l'humanité? Est-ce que je vais être une sorte de Frankenstein? Je vais tuer mon maître, etc. J'ai choisi de dire que non, mais je sais pas si c'est la vraie réponse.
Une question sur ton rôle d'auteur de science-fiction. Est-ce que tu es auteur de science-fiction parce que ce sont des univers auxquels tu es habitué ou parce que c'est une littérature qui te permet d'interroger encore mieux le monde qui t'entoure?
Plutôt la deuxième option. Déjà, je me considère pas spécialement comme auteur de science-fiction. Pour moi, j'écris pour les ados et après, j'utilise le genre qui va me servir le mieux pour dire ce que j'ai à dire. J'ai écrit de la fantasy, j'ai écrit un roman de l'autre côté du mur que je cale en dystopie parce que il est un peu hybride en fait finalement entre la fantasy, un peu de science-fiction éventuellement. Effectivement, IRL est vraiment dans la science-fiction, donc c'est plutôt j'utilise la science-fiction parce qu'elle me permet d'interroger des choses qui sont dans notre société, de les pousser plus loin. Là, par exemple, j'ai choisi la télé-réalité. Le contrôle des médias et le virtuel. Dans De l'autre côté du mur, j'ai choisi de créer une société où les hommes et les femmes sont complètement séparés. Parce que c'était à une époque où je faisais des études de lettres et j'étais sur un campus où ils étaient en train de déménager toutes les sciences à l'autre bout de la ville. Et on se retrouvait avec en gros un campus de lettres avec une grosse majorité de femmes à un bout de la ville et un campus de sciences avec une grosse majorité de garçons à l'autre bout de la ville. Et ça m'a posé question. Je trouvais que c'était très mauvais déjà de séparer les lettres et les sciences tout simplement et du coup les hommes et les femmes aussi parce que les clichés sont malheureusement assez exacts sur la fréquentation de chaque cursus. Et du coup, la science-fiction, si on peut appeler ça comme ça dans ce cas-là, m'a permis de pousser ce raisonnement jusqu'au bout, de dire voilà, si on continue dans cette voie-là, qu'est-ce que ça va donner? Et du coup, de réfléchir, il peut y avoir des bons côtés, puis aussi évidemment aux mauvais aspects de ces choses-là. Peut-être tirer des alertes, même si je n'ai pas la prétention de passer des messages didactiques dans mes romans, parce que je les écris avant tout pour faire plaisir. Il y a évidemment des réflexions sur la société, et la science-fiction permet beaucoup de faire passer ces réflexions-là tout en se faisant plaisir, tout simplement.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour Agnès? Est-ce qu'il y a des joueurs de Sims dans la salle? Non, a priori, personne. Peut-être une dernière question avant qu'on conclue. Sur quoi est-ce que tu travailles? Quels sont tes projets?
Alors, j'ai un prochain roman qui va sortir au mois d'avril aux éditions Scrinéo. Qui va être complètement différent de ce que j'ai déjà fait. Enfin, de toute façon, globalement, mes romans sont assez différents les uns des autres. Donc on va être toujours dans une littérature pour adolescents ou grands adolescents. En revanche, cette fois, ça va être du contemporain avec très très peu d'imaginaire. Et ça va être l'histoire d'une fille qui est boiteuse, donc qui est handicapée, mais handicapée invisible, donc elle n'est pas en fauteuil roulant, elle a des béquilles, donc on pense à la base, la plupart des gens en la voyant pensent qu'elle a une entorse et non pas que c'est pour toute la vie, et qui décide que c'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle peut pas être une super-héroïne. Alors là, pas question de super pouvoir, etc. Ça va juste être une super-héroïne du quotidien. Donc elle va faire avec ce qu'elle a, essayer d'utiliser, malgré son handicap, voire grâce à son handicap, utiliser ce qu'elle a pour pouvoir aider sa sœur qui est en dépression pour un certain nombre de choses que je dévoile pas, sinon c'est pas drôle. Et elles vont partir dans un road trip un peu dingue en terre Navarro, donc aux États-Unis, à la recherche d'un pouvoir qui pourrait peut-être les guérir.
Voilà. Et ça, tu penses que ça sortira tu penses que ça sortira à peu près quand?
Au mois d'avril, chez Scrigno.
Au mois d'avril, d'accord. Merci beaucoup Agnès, merci à vous. On vous libère. Et puis bientôt, une autre conférence,
merci.
Une autre dédicace.
Oui.